Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, est-ce la lumière qui sculpte l'univers ? La cosmologie contemporaine parvient à décrire l'univers à rebrousse-temps jusqu'à atteindre une description de ses phases primordiales. La matière élimine d'abord l'antimatière, son double antagoniste, puis 400 000 ans plus tard, la lumière se sépare de la matière, rendant l'univers transparent à sa propre lumière et la matière libre de se structurer. Naissent alors les galaxies, les étoiles et toutes les formes qui peuplent le ciel nocturne. Se déclinent ainsi des liens génétiques. Les étoiles sont les mères des atomes, elles ont pour ancêtre des nuages de poussière dont la matière provient des phases les plus chaudes et les plus anciennes de l'univers. Assise sur la ligne du temps, une continuité ontologique faite de filiations enchevêtrées se profile donc, qui va des particules élémentaires de l'univers primordial jusqu'à nous autres, les humains. Les œuvres du temps n'en apparaissent que plus spectaculaires. À coups de rupture et de longue durée, l'évolution historique est parvenue à façonner sur un astre convenablement tempéré comme le nôtre, les éléments moléculaires complexes d'abord, les organismes vivants ensuite, les êtres pensants enfin. L'univers peut ainsi se lire comme un grand récit, pour parler comme Michel Serres. À son propos, notre question de science du jour sera celle-ci. Quel rôle la lumière a-t-elle joué et joue-t-elle encore dans la trame de ce vaste scénario cosmique ? N'aurait-elle pas secrètement aidé la matière à s'organiser en structures de plus en plus ordonnées ? Pour répondre à cette question, j'ai invité David Elbaz. Bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes astrophysicien, chercheur au département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique. Autrement dit, vous êtes une abeille de l'univers au sens de Rilke, le poète, qui disait des astronomes qu'ils butinent éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible. Ça vous va ?
Ah, ça me va très bien.
Vous publiez un livre magnifique qui s'intitule « La plus belle ruse de la lumière ». Il faudra expliquer de quoi il s'agit. Mais vous consacrez un des chapitres de cet ouvrage à la beauté de la nature. Et la question que j'ai envie de vous poser en préambule, c'est est-ce que pour dire que la nature ou l'univers est beau, il faut en passer par une certaine forme d'abstraction, ou est-ce que c'est spontané ?
C'est une très bonne question. J'ai hésité longuement avant de poser la question de la beauté de l'univers, parce qu'effectivement, en tant que scientifique, c'est pas vraiment un terme qu'on peut définir de manière objective. La beauté est essentiellement subjective. L'art de la science, c'est effectivement, à travers l'abstraction, de trouver de l'universel derrière la particularité. Et finalement, c'est justement ça qui me rapproche de cette notion de beauté que je retrouve chez François Cheng, qui parle justement de la beauté comme étant l'expression de la particularité des êtres complexes. Et donc, nous vivons dans un monde fait de formes complexes, riches, singulières, et c'est ça que, par simplification, je vais appeler la beauté, et qui pose une question, comment un univers simple, avec des lois simples et universelles, simple, c'est-à-dire une simple explosion il y a 13,8 milliards d'années, peut-il engendrer un monde fait de formes complexes, particulières, singulières, que je simplifierai sous le terme de beau.
Est-ce que vous faites une distinction entre le beau et le sublime ?
Alors, effectivement,
Kant.
Exactement. Alors, cette idée-là, effectivement, elle est très intéressante parce que, d'ailleurs, le livre commence avec la description d'une des belles images du télescope spatial Hubble, où on entend en filigrane, quelque part, cette phrase du « America make America great again », parce qu'on est vraiment dans le soft power où, à travers la beauté d'une image scientifique qui est en partie artificielle, on donne un sentiment à celui qui regarde l'image d'une élévation, d'un besoin de se dépasser. Quand Emmanuel Kant parle de sublime face à une montagne, par exemple, ce qu'il entend par là, c'est le fait qu'on est poussé à aller plus loin, plus haut, à dépasser les limites même de la raison. Et c'est ce qui est en train de se faire avec ces images sublimes de l'univers, c'est que on fait des choix de couleurs et de zoom qui sont en partie artificiels, qui rendent les images pas seulement belles, mais sublimes.
Alors vous parlez notamment là, je pense, de la nébuleuse de la Carène,
oui,
dont vous donnez quelques images.
Oui.
Qu'est-ce qu'on verrait de cette nébuleuse si on était sur place ?
Alors c'est ça qui est un peu troublant, c'est qu'on a l'impression de voir une montagne, en réalité, qui mesure 30 000 milliards de kilomètres quand même. Donc faut être un sacré alpiniste si on voulait la monter. Mais en réalité, la matière, à l'endroit où elle est le plus dense dans cette région-là, contient environ 2000 particules par centimètre cube, c'est-à-dire qu'elle est 30 000 fois moins dense que le plus vide, que le vide absolu qu'on peut réaliser en laboratoire. elle n'aura pas du tout les mêmes couleurs non plus, cette montagne, que ce qu'on voit dans cette image magnifique, tout simplement parce qu'on a pris des filtres étroits qu'on a calibrés expressément pour retrouver des couleurs qui ressemblent un peu à ce qu'on aime voir dans des tableaux de peinture, par exemple. Et donc, si on était sur place, on serait vraiment déçu. On serait dans un espèce de vide peuplé de quelques particules de matière et quasiment noir et blanc.
Donc ça veut dire que les couleurs qui la rendent magnifique, enfin notamment elle, oui, sont artificielles.
Exactement. Donc cette beauté.
Mais elle donne quand même une lecture des processus qui s'y déroulent.
Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que nous, lorsqu'on voit cette image, du fait de ces couleurs artificielles, on la traduit immédiatement en un film, puisqu'on sait que telle couleur indique une étoile qui vient de naître, que telle couleur indique une étoile qui vient d'exploser, etc. Et donc on a une idée de ce qui se passe sur des millions d'années dans l'image. Et donc on retrouve une forme belle au sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire complexe, singulière, particulière, donc pas artificiellement belle à ce titre, et puis un film. Et donc la couleur est informative.
Alors, cette nébuleuse de la Carène, c'est une, ce que vous appelez, vous les astrophysiciens, une pouponnière d'étoiles.
Oui.
Alors, combien est-ce que d'étoiles sont créées à chaque seconde dans l'univers?
Alors, ça, c'est le chiffre.
L'univers observable.
L'univers observable, voilà. L'univers observable, donc c'est à la limite de ce qu'on peut voir dans l'univers. Le chiffre exact, c'est 9474 étoiles par seconde, à partir des dernières estimations, donc à peu près 10 000 par seconde. Ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 40 000 étoiles dans l'univers observable.
Mais c'est un taux qui baisse au cours du temps.
Alors c'est
ça. Il y en avait plus produites il y a 10 milliards d'années, par exemple,
oui,
j'imagine.
Oui, c'est ça qui est un petit peu...
On faiblit.
C'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que en fait, ça me rappelle, c'est dans ce que j'avais expliqué dans un précédent livre que j'appelais l'illusion narcissique, c'est que plus on étudie l'histoire de l'univers, plus il nous ressemble, à tel point qu'on se demande si c'est véritablement l'histoire de l'univers que l'on décrit. Et il y a eu cette pseudo-naissance du Big Bang, il y a eu une phase de croissance, et puis il a atteint la phase de pleine maturité. C'était il y a 8 à 10 milliards d'années où il formait typiquement 10 fois plus d'étoiles, donc non pas 10 000, mais 100 000 étoiles par seconde avec une efficacité énorme. Et puis depuis, il s'est mis à vieillir, à devenir de plus en plus ridé. Ces étoiles sont ridées parce que quand elles contiennent des atomes nés de précédentes générations, elles ont des rides dans leur spectre, elles sont vieilles.
Qu'est-ce que vous appelez des rides?
Des rides, c'est ce qu'on appelle les raies d'absorption dans le spectre d'une étoile, mais quand on regarde la lumière d'une étoile, son arc-en-ciel, on voit des rides, des traits noirs, et plus les rides sont nombreuses, plus ça veut dire que la matière dont elle est faite est vieille.
Bon, c'est une façon de parler, un peu anthropocentrique.
C'est exactement, exactement. Mais néanmoins, on voit que l'univers vieillit, d'une certaine manière, et un peu comme nous, qui devient un peu moins efficace, etc. Et ça pose la question de savoir si c'est pertinent de décrire l'histoire de l'univers de cette façon-là, un peu trop effectivement anthropocentrique, puisque finalement on ne parle que de la partie visible de l'univers observable.
David Albaz, les astrophysiciens comme vous-même disposaient de télescopes qui peuvent voir très très loin dans l'espace, donc dans le temps. Et ma question est, comment, à quoi ressemble la matière quand elle est ainsi éloignée? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce qu'elle est dans des formes beaucoup plus simples?
Alors, effectivement, plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le temps, et plus ce que l'on voit, ce sont des structures de moins en moins complexes. Et donc, on voit se dessiner une histoire d'un monde qui s'organise au cours du temps, depuis la naissance des premiers atomes, les premières molécules, les premiers grains de poussière, les étoiles, planètes, etc. Et on le voit parce que... Alors, on peut voir de l'autre, par exemple, qui est une molécule qu'on pourrait penser propre à la Terre, partout dans l'univers, jusqu'à des distances énormes. Donc, la molécule d'eau est présente. L'eau liquide, par contre, c'est une autre histoire. Mais on voit le monde s'organiser et on voit des galaxies. Par exemple, l'image de la plus ancienne galaxie de l'univers, c'est-à-dire un bébé galaxie, puisque au moment où elle vient de naître, plus ancienne image, mais ça veut dire qu'on remonte...
Les galaxies sont nées avant les étoiles ou l'inverse?
Alors, ça, c'est encore débattu. Le télescope spatial James Webb qui va être lancé dans quelques jours avant Noël.
On y consacrera une émission prochainement.
Bah, très bien. Eh bien, ce télescope aura pour objectif de répondre à cette question. C'est même pas sûr qu'il y arrive. C'est encore débattu. D'un point de vue théorique, on pense que ce sont d'abord les étoiles qui sont nées, mais ces étoiles sont peut-être nées dans des espèces de nids qui sont des proto-galaxies. Alors, est-ce qu'on appelle ça un bébé galaxie avec des bébés étoiles? Mais cette image de cette première galaxie de l'univers ressemble vraiment à une petite flamèche qui flotte dans l'espace, qui est une galaxie pas encore structurée. Elle n'a pas encore son disque en spirale, elle n'a pas encore toutes ces belles structures, ces nuages moléculaires, tout
elle
ça.
Elle n'a pas de forme bien définie.
Elle ressemble vraiment à une elle a une forme qui est presque, qui est irrégulière et donc qui montre qu'elle est qu'elle contient en potentiel, en puissance, toute l'organisation du monde, mais qu'elle commence à faire ses premiers atomes, ses premières molécules.
Comment produit-elle la lumière qu'elle nous adresse et qu'on recueille par les télescopes ?
Alors, celle-ci, pour être détectée, elle a quand même un certain nombre de milliards d'étoiles. Donc, elle a des étoiles qui sont nées, donc on la voit, on estime typiquement 350 millions... on la voit 350 millions d'années après le Big Bang, et on pense qu'elle a déjà 50 millions d'années. Donc, elle vient pas tout... C'est un bébé à l'échelle de l'univers. Un bébé relatif.
Il y a un personnage, David Elbaz, auquel vous consacrez des pages que j'ai trouvées très belles, qui est Vesto Slipher.
Oui.
Un astronome américain, moins connu que Edwin Hubble, qui a laissé son nom à une constante fameuse de l'astrophysique. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il était? Est-ce qu'il a trouvé, sans vraiment le trouver, enfin sans le comprendre?
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est un oublié de l'histoire et qui est vraiment intéressant parce qu'il nous enseigne quelque chose qu'on doit tous vivre. C'est le moment où, et j'ai vu ça aussi moi-même ou avec mes étudiants, c'est le moment où on fait une découverte et on se dit non, c'est trop gros, ça a dû être vu par quelqu'un d'autre ou bien c'est faux. Et on a du mal à croire quand quelque chose est vraiment nouveau, si c'est vraiment nous qui le découvrons. Il était parti à la recherche de systèmes solaires en formation et ce qu'il a trouvé était proprement troublant. En fait, il travaillait, Vesto Slipher, dans un trou paumé au milieu des États-Unis.
C'est bien ça pour faire de l'astrophysique. De l'astronomie plutôt.
C'est bien parce qu'effectivement, il n'y a pas de pollution lumineuse, etc. L'endroit s'appelle Flagstaff, ce qui veut dire le poteau avec un drapeau. C'est vous dire à quel point...
C'est précis.
C'est vraiment l'endroit où il n'y a rien. Et dans cet endroit où il n'y a rien, il avait un appareil que j'ai retrouvé d'ailleurs, qui est avec des vis micrométriques, sur lequel il plaçait le spectre d'une étoile, donc avec ses fameuses rides. Et si elles étaient décalées vers la droite, ça voulait dire qu'elle se déplaçait en s'éloignant de nous, vers la gauche en se rapprochant de nous, et puis si c'était décalé de 3 mm, c'était 10 km par seconde ou inversement. Et là, il étudie une forme, une sorte de nébulosité dans le ciel, il tourne sa vis de 3 mm, ça devrait faire caler toutes les rides, et ça ne marche pas. 4 mm, 5 mm, 6 mm, 1 cm, 1 cm et demi. Et là, il trouve quelque chose qui est complètement dingue avec sa main qui tourne une vis. C'est-à-dire que c'est physique. Il vit physiquement un phénomène qui est que tout fout le camp. C'est-à-dire que ces nébuleuses se tirent à une vitesse prodigieuse, 500 km par seconde, dans tous les sens. En gros, c'est comme si nous étions dans ce studio-là et qu'on regardait autour de nous et on voyait tout le monde partir dans toutes les directions... Et même les arbres partir, etc., comme s'il y avait une explosion.
Mais cette nébuleuse, il pensait qu'elle était dans la Voie lactée, dans notre galaxie.
Exactement, il pensait que c'était une étoile en train de naître avec son système planétaire.
Et qui se barrait à une vitesse incroyable.
Mais oui, elle devait partir à 5-10 km par seconde, c'est le mouvement naturel des choses dans le ciel.
Ça, c'est 1919.
Alors là, on est en 1917.
17.
Et donc, en gros, ce qu'il voit, c'est l'expansion de l'univers, c'est le Big Bang, mais c'est ce qui fera que le maître.
Il comprend pas.
Et enfin, je le soupçonne de l'avoir compris, parce qu'il dit juste une phrase dans son article, il dit « Je donnerai plus tard une tentative d'explication possible de ce qu'on a
plausible.
Vu là, plausible, etc. » Donc, en gros, c'est inacceptable pour lui, c'est trop dur à digérer.
Mais c'est une formulation bizarre pour un article scientifique.
En fait, j'ai jamais retrouvé une phrase de ce type-là ailleurs dans la science, et je pense que, en fait, simplement, ça le dépassait.
Mais il est mort très vieux, je crois, il est mort à 93 ans.
Oui, donc il a eu le temps de voir.
Il n'est jamais revenu sur cette phrase.
Non, il aurait pu revendiquer ça, effectivement. Je pense que il faudrait que nous, en tant que scientifiques, on change le nom qu'on donne à la loi de Hubble-Lemaître, pendant laquelle on a compris que Lemaître avait joué un rôle, en rajoutant Slipher. Parce que Lemaître, qui est celui qui a véritablement vu, d'un point de vue théorique, l'expansion de l'univers, avait deux options. Soit l'univers se contracte, soit il est en expansion. Et dans son article de 1927, il choisit l'expansion parce qu'il cite dans une note un fameux Stromberg qui en réalité cite Slipher. Et donc c'est parce qu'il sait que Slipher a vu le monde exploser qu'il sait que l'univers est en expansion.
Donc on a repris ces données sans le citer vraiment.
Exactement. Et même Hubble, la table de Hubble, ce sont les données de Slipher. Les mêmes vitesses, les mêmes... Quand j'ai vu ça, j'ai reconnu les noms des galaxies, les vitesses. C'est pas dans les livres d'histoire, mais il n'a pas cité Slipher. C'est du plagiat.
Alors en fait, ces étoiles, elles s'enfuient pas dans l'espace. C'est l'espace qui les sépare, qui se dilate.
Exactement. Alors ces galaxies, bien sûr.
Tout à fait.
Exactement.
Et la nébuleuse qu'avait vue Slipher, elle n'est pas du tout dans la Voie lactée.
Exactement.
Sans le savoir qu'il existe d'autres galaxies.
Alors ça, il le dit par contre dans l'article. Il le dit, ces objets-là ne peuvent pas être dans la galaxie. Ils ne peuvent pas être dans la galaxie parce qu'en fait, d'abord, s'ils l'étaient... Le mardi où il a fait l'observation, le mercredi, elle n'y était plus à la vitesse à laquelle elle partait, à quelques jours près. Et donc, en fait, il le dit, ces nébuleuses sont nécessairement extragalactiques. Ce qu'il a du mal à accepter, c'est qu'il y a un mouvement cohérent de l'univers et que cet univers ait une histoire. Ça le dépasse.
Mais ce qu'on appelle l'univers là, c'est l'espace-temps. Parce que dire que l'univers a une histoire, c'est une chose qu'on avait déjà dite avant, mais l'univers n'avait pas la même définition. C'était une sorte d'enveloppe
tout à fait.
Qui contenait des objets qui eux-mêmes pouvaient avoir une histoire. Mais c'est pas l'univers en tant que tel qui en avait une.
Exactement. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que c'est, à l'échelle globale, c'est l'espace-temps qui a une histoire et qui s'étend entre les galaxies. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, à l'échelle des objets physiques qu'on observe quand on remonte loin dans le temps, on remonte le cours de l'histoire des objets physiques et on voit les galaxies telles qu'elles étaient bébés. Et donc, effectivement, on lit l'histoire des galaxies et c'est en ce sens que la lumière est le conteur d'une histoire, celle de la structuration de l'univers.
En fait, c'est grâce à la lumière que nous recevons que nous avons pu déduire tout ce que vous dites d'observations dans lesquelles la lumière joue un rôle particulier d'information. Mais ce que vous dites, c'est que c'est beaucoup plus que ça, la lumière. Elle a un côté structurant de la matière.
Oui.
Alors, expliquez-nous ça, s'il vous plaît.
Alors ça, c'est vraiment ça, ce qui m'a le plus troublé et ému, c'est quand je me suis rendu compte que la lumière qu'on collecte, nous, avec nos télescopes, que ce soit la vibration d'une molécule de monoxyde de carbone, par exemple, ou le rayonnement d'un grain de poussière d'un micromètre de taille. Cette lumière, ce qu'elle fait, c'est qu'elle emporte l'énergie d'agitation de la matière au-delà des régions où se trouve cette matière, ce qui fait que la matière peut prendre forme. Et cette idée-là, en fait, elle remonte au papier d'Einstein, dont vous êtes expert, justement, et qui, dans son papier de juin 1905, il dit « L'énergie cinétique du corps, donc l'agitation d'un corps physique, diminue suite à l'émission de lumière. » Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais c'est une véritable découverte. Et il dit « Le fait que l'énergie retirée du corps devienne de l'énergie de radiation ne fait évidemment aucune différence. » En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que, imaginez que vous ayez de l'eau bouillante, et vous voulez faire des glaçons. C'est pas possible parce que la matière est beaucoup trop agitée. Il faut qu'elle refroidisse. Et qu'est-ce qui se passe quand elle refroidit? Elle se calme. Qu'est-ce qu'on a supposé là? C'est qu'elle a libéré son agitation sous la forme de lumière. On entend par là la lumière
invisible.
Infrarouge. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'en réalité, la lumière emporte avec elle l'agitation de la matière et la matière se structure grâce à ce processus. Si la lumière n'existait pas, aucune forme structurée n'existerait dans l'univers et donc pas de beauté.
Mais ça a à voir avec la thermodynamique.
Oui.
Avec ce qu'on appelle l'entropie et sa croissance obligatoire.
Voilà, c'est non seulement ça à voir avec ça.
C'est quoi l'entropie déjà? Est-ce qu'on peut définir cette notion?
Oui. Alors l'entropie, c'est, imaginons qu'on ait un certain nombre d'objets, par exemple on a 40 objets dans cette pièce, 40 billes par exemple, si je les jette en l'air, on sait qu'elles vont avoir plus de chances de se distribuer de manière aléatoire, sans par exemple dessiner de forme qu'on pourrait reconnaître, que de se distribuer dans un cercle. Et la raison pour ça, c'est que l'arrangement des éléments de matière va toujours vers l'état qui a le plus grand nombre d'arrangements possibles. Donc il y a plus grand nombre d'arrangements possibles de billes désordonnées que de billes qui font un cercle.
Donc on l'associe au désordre, ce qui est peut-être trompeur.
Alors ce qui est trompeur, c'est que tant qu'on parle de billes, on suppose que c'est de la matière. Et donc là, on va considérer qu'on va aller toujours vers plus de désordre, puisqu'il est plus probable de distribuer les billes de manière aléatoire. Ce qu'on oublie systématiquement, et même dans les livres de physique malheureusement, c'est qu'il y a une autre façon d'augmenter la probabilité, et donc l'entropie, c'est de subdiviser les billes en plein de petites billes. Et c'est ce que permet la lumière. Depuis que Einstein a trouvé le fameux E égale MC2, on peut subdiviser l'énergie de l'univers en petits morceaux, en petits quantas d'énergie, les photons, et ainsi augmenter l'entropie en produisant de la lumière. Alors qu'est-ce que je veux dire derrière cette idée un peu complexe? Je veux dire simplement la chose suivante, c'est que dans l'univers, la manière la plus efficace de répondre à la propension qu'a l'univers à faire de plus en plus d'entropie, c'est d'engendrer la lumière. On est dans un monde qui, depuis le Big Bang, n'a cessé de provoquer la prolifération de la lumière, une augmentation de la lumière, qui répond donc à ce second principe de la thermodynamique, et qui se produit en organisant la matière.
Alors, l'entropie, est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose, une grandeur physique, qui mesure la capacité d'un système à évoluer? Plus l'entropie est faible, plus sa capacité à évoluer sera grande.
C'est vrai.
Et donc, l'évolution oblige ce système à augmenter son entropie.
Oui.
Pour le dire de façon plus triviale, à augmenter le désordre qu'il contient.
Oui.
Et la lumière permet à la lumière de se structurer tout en respectant ce principe.
Exactement.
Et la lumière emporte le désordre avec elle.
Exactement. Exactement. Et comme ce qu'on appelle ordre et désordre, c'est quand même plutôt ce que c'est que la matière, ce que la distribution de la matière dans l'espace, quand on regarde...
Du coup, on oublie la lumière dans le bilan.
Voilà. Et c'est ça la clé. L'entropie, c'est simplement le fait que s'il fait chaud dans cette pièce et que j'ouvre la fenêtre, la chaleur va aller vers l'extérieur. C'est ça ce que dit l'entropie. C'est qu'on sait d'avance dans quel sens va se dérouler l'histoire. C'est que quand j'ouvre la fenêtre et qu'il fait froid dehors, ça va partir. Et comme vous le disiez, s'il fait très chaud dedans et très froid dehors, ça va aller d'autant plus efficacement et d'autant plus vite.
Donc c'est ça qui donne un sens à l'histoire.
C'est ça qui donne un sens.
Parce que, en fait, les équations fondamentales de la physique, et vous le rappelez dans le livre, elles sont réversibles. C'est-à-dire que si on change T, le paramètre temps, en son opposé, l'équation est invariable.
Oui.
Ça veut dire que normalement, la physique dirait que tous les phénomènes qui se produisent physiquement sont réversibles. C'est-à-dire tout système peut retrouver dans le futur un état qu'il a connu dans le passé.
Oui.
Et à cause de l'entropie qui croît, c'est impossible.
Exactement.
Il y a de l'irréversité des phénomènes.
Exactement.
Et donc c'est la lumière qui va tirer cette histoire dans un sens. D'ailleurs, vous parler de sens de l'univers dans votre livre.
Oui, sens de l'histoire.
Sens de l'histoire.
C'est ça.
Mais quelles sont les grandes phases au début? Il n'y a donc que des particules élémentaires.
Oui.
Comment est-ce qu'elles émettent de la lumière?
Alors c'est ça qui est intéressant. C'est quand on regarde l'univers sous cette grille de lecture, imaginons qu'on retienne cette idée qu'il y a une propension dans l'univers à produire de la lumière et qui répond à cette idée d'entropie, etc. Oublions pour l'instant l'entropie, pensons juste en termes de lumière. Au début, l'univers apparaît, prenons une phase où il a des électrons, des protons et puis des neutrons. Un neutron, du fait qu'il n'a pas de charge électrique, ne peut pas avoir d'interaction électromagnétique et donc ne va pas produire de lumière, alors qu'un électron qui passe à côté d'un proton va produire de la lumière. Eh bien, il se trouve qu'en 15 minutes, le neutron se désintègre et se transforme en proton. Comme si le fait qu'il ne réponde pas à la propension de l'univers à faire augmenter la lumière...
L'obligeait à changer. Oui, mais ça, c'est une interprétation finaliste.
C'est une grille de lecture qui est intéressante parce qu'elle peut nous guider, non pas comme étant une façon de se dire « j'ai tout compris sur le sens de l'univers », mais comme étant une façon de regarder les choses autrement pour voir si on peut éventuellement faire des découvertes nouvelles. Je pense que c'est une grille de lecture intéressante. Le neutron, une fois qu'il est dans l'atome, dans le noyau d'atome...
Je dirais plutôt une fois qu'il est transformé, on ne sait pas très bien pourquoi,
oui.
Il devient capable d'émettre de la lumière puisqu'il a une charge électrique.
Quand il est devenu proton, donc il devient capable d'émettre de la lumière, et quand il est dans le noyau d'atome, parce que après ces premières particules, on a des atomes. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome, c'est un objet qui est capable d'émettre de la lumière avec plus de degrés de subtilité. Il suffit de taper dessus pour que l'électron prenne de l'énergie, monte et redescende comme une balle qui tombe les escaliers.
Les électrons qui tournent autour du noyau.
Les électrons qui tournent autour du noyau. Et si le noyau s'enrichit, devient plus lourd, alors à ce moment-là, on a plus de niveaux d'électrons et plus d'électrons. Mais pour ça, il faut de la glu. Et donc, il faut que le neutron vienne apporter de la glu sans se désintégrer en proton. Eh bien, quand on a besoin du neutron pour ça, il devient éternel. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une finalité de la matière, je fais juste ce constat-là, qui est un des constats. On peut faire la même chose sur la matière noire, les trous noirs, l'énergie noire, et on se rend compte qu'ils participent tous à cette idée de prolifération de la lumière.
Mais vous n'êtes pas en train de dire que le neutron se sacrifie en tant que neutron pour devenir un proton, afin que la lumière devienne plus capable d'émettre de la lumière?
Non, je ne suis pas en train de dire pourquoi il le fait, je suis en train de dire que il le fait.
Donc, il y a première étape, les particules élémentaires émettent de la lumière si elles sont chargées, et puis elles se structurent en atomes qui eux-mêmes peuvent émettre de la lumière de façon plus, disons, plus diversifiée.
Oui.
Les molécules également, qui sont des assemblages d'atomes.
Les molécules, d'atomes. Quand elles vibrent,
Et ça se passe alors que les étoiles ne sont pas encore formées.
Oui. Alors... Oui, effectivement. Alors au début, les premières molécules sont assez simples. Hein, ça va être que des molécules d'hydrogène. Et puis après, pour que des molécules plus complexes naissent, il va falloir quand même former des noyaux d'atomes plus lourds que ceux qui sont nés au cours du Big Bang, qui sont l'hydrogène, l'hélium, le deutérium, le lithium, beryllium, bore. Donc pour qu'il y ait du carbone, l'azote, l'oxygène, il faut des étoiles. Donc les étoiles vont donner naissance à ces atomes plus complexes. Et là, ils vont donner naissance aux grains de poussière et aux molécules complexes. Alors ce qui est intéressant avec les grains de poussière, c'est que ce sont des éplucheurs de photons. Ils multiplient les photons avec une efficacité incroyable. Pour chaque photon d'une étoile qui vient de naître, qui va chauffer un grain de poussière, sont émis 500 photons de plus petite énergie par le grain de poussière. Donc c'est un éplucheur de photons qui multiplie les photons et donc qui augmente l'entropie. Parce que l'entropie, c'est le nombre de billes. Et donc le nombre de billes est augmenté par les grains de poussière. Nous sommes les enfants de ces éplucheurs successifs de l'énergie prodigieuses qu'il y avait dans l'univers, qui ont transformé des balles de fusil en plumes jusqu'à ce que ça devienne la Terre, le système solaire et la vie.
Mais est-ce que ce que vous dites là est suffisant pour qu'on puisse dire que c'est le moteur de l'évolution cosmique?
Alors, moi je dirais que c'est plutôt un peu l'image que j'ai, c'est celle de Darwin quand il voit cette orchidée avec un qui a une profondeur de 29 cm et il se dit pour qu'elle soit fécondée, il faut qu'il y ait un papillon de nuit qui ait une trompe assez grande, etc. Et donc, partant de ce principe que nécessairement dans la nature, il doit y avoir l'objet nécessaire, il fait ce postulat et on le découvrira que bien plus tard, dans les années 90, indirectement, il a été filmé au début des années 2000, ce fameux papillon. Je pense que c'est un peu la même chose. On n'est pas en train de dire que la nature devait faire des orchidées de 29 cm et qu'on a compris pourquoi les orchidées de 29 cm existent. Non, on dit juste qu'il y a nécessairement une forme de structuration de la nature qui s'est faite et que si elle s'est faite, c'est qu'il y a une cause. En gros, on est en train de dire là qu'il y a, oui, un hasard des formes, puisqu'elles sont toutes différentes les unes des autres, il n'y a pas deux galaxies pareilles, mais il y a aussi une nécessité. Et cette cause nécessaire, elle est fondamentale pour comprendre le sens de l'histoire, et on s'est trop interdit de chercher une cause nécessaire au sens de l'histoire, parce que, quelque part, je soupçonne mes confrères d'avoir un peu l'inquiétude d'une récupération de cette quête.
Mais le Fiat Lux, oui. Comment vous pensez? Parce que finalement, si je vous comprends bien, la lumière, c'est plutôt le résultat de l'évolution plutôt que le déclencheur.
Alors, elle était là aussi au début, puisque au début, la lumière peut se transformer en matière et en antimatière. Donc, au début, c'est vrai que c'est un peu débattu pour le Fiat Lux du modèle entre guillemets standard de la cosmologie. Ça serait ce champ qu'on appelle l'inflaton, qui est une forme d'énergie primordiale qui s'est transformée et qui, dont la résurrection actuelle, ce qu'on appelle l'énergie noire, pourrait être aussi une autre forme du même genre. Donc, il y a une part d'inconnu énorme ici sur l'énergie primordiale qui a donné naissance à tout ça et l'énergie qui actuellement provoque l'expansion accélérée de l'univers. Mais si je disais que imaginons que je sois un grand architecte, comme disait Newton, et que je veuille concevoir un univers dont la propension c'est de faire le plus possible de lumière, je serais obligé d'inventer la matière. Parce que la lumière ne peut pas se multiplier d'elle-même. Est-ce que ça prouve qu'il y a une intentionnalité dans l'univers? Non. C'est juste comme le papillon de Darwin.
C'est juste le constat que la matière en se transformant produit la lumière.
Exactement. Et c'est ça qui fait que l'eau coule le long de la pente. C'est-à-dire qu'en fait...
Ça, c'est un déterminisme.
C'est-à-dire que c'est pas un déterminisme.
C'est une direction.
C'est une direction qui pour moi, est utile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se demande, par exemple, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Si la vie répond plus efficacement à cette direction de l'univers, alors on pourrait penser que oui. Si elle n'est que le fruit du hasard et non d'une cause nécessaire, alors
que dans les exemples que vous avez donnés, David Elbaz, vous ne parlez que de matière inanimée. Et là, tout d'un coup, vous parlez de vie.
Oui.
Ça veut dire que la vie produit de la lumière,
oui.
Beaucoup.
Oui. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui m'a...
Expliquez-moi.
Alors, c'est ça
Expliquez-nous.
Qui m'a... Oui. C'est-à-dire qu'en fait, un atome qui est situé dans un être vivant produit de la lumière avec une efficacité qui est beaucoup plus grande que le soleil. Un être vivant rayonne de la lumière infrarouge. Donc de la lumière.
Enfin, s'il avait le même volume.
Alors, s'il avait la même masse que le Soleil, par exemple, si j'avais, je ne souhaite vraiment pas, bien sûr, mais si j'avais la masse du Soleil, donc 2 10 puissance 30 kg, alors je rayonnerais 200 000 fois plus de particules de lumière que le Soleil. Je sais, c'est troublant.
Vous rayonnez 120 watts.
Je rayonne 120 watts. Oui, mais
enfin, votre corps.
Mon corps rayonne 120 watts, mais par kilo. Par kilo, si on oublie ma masse, hein, qui est vraiment pas un sujet de conversation intéressant, parce que je préfère oublier cette partie-là. si on prend un corps de 60 kilos, et c'est pas le mien, mais disons un corps de 60 kilos. Alors à ce moment-là, on rayonne 2 watts par kilo. 2 watts par kilo. Je prends un kilo de chair humaine.
Le soleil, c'est 800 watts par mètre cube.
Alors le soleil, c'est 0,2 milliwatts par kilo. Par masse. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la masse.
Ouais.
Et donc, ça veut dire qu'en fait, on rayonne par kilogramme, je dis moi, mais un kilogramme d'écureuil, c'est pareil, ou un kilogramme de serpent ou d'éléphant, le vivant, rayonne avec une efficacité qui est 10 000 fois supérieure en termes de watts. Mais comme en plus, on rayonne dans l'infrarouge, c'est-à-dire que chaque photon contient moins d'énergie, il y a en plus 20 fois plus de photons. Et donc, en tout, c'est 200 000 fois plus.
Ça veut dire que c'est le processus que le corps vivant, qui est le nôtre,
oui,
utilise pour transformer la matière que nous absorbons par l'alimentation
en
lumière.
Exactement. Les macromolécules qu'on absorbe permettent de nourrir une machine à produire des particules de lumière qui est, et c'est ça qui est pour moi assez troublant, la machine la plus efficace qui ait jamais été conçue dans l'univers depuis 13,8 milliards d'années pour faire de la lumière. C'est la vie.
Mais on n'est quand même pas là que pour faire des photons.
Alors, attention, je ne sais pas pourquoi on est là. Je constate juste que si la matière a produit des étoiles, des planètes et la vie, ce n'est pas en violant le second principe de la thermodynamique, ce n'est pas, comme certains le disent parfois, que globalement, l'entropie augmentant, on peut la violer localement au niveau du vivant et que le vivant ne respecte pas les lois de la physique. C'est en respectant les mêmes lois physiques que celles du premier proton qui est né dans l'histoire de l'univers. Je veux juste réconcilier l'inerte et le vivant en disant que notre histoire s'inscrit dans l'histoire globale de l'univers et ça ne veut pas dire pourquoi elle est comme ça.
Pourquoi, David Elbaz, votre livre s'intitule-t-il « La plus belle ruse de la lumière » oui. Pourquoi ruse ?
Alors, pourquoi ruse ? Bon, d'abord parce que je reprends la phrase de Charles Baudelaire qui dit « Nous causâmes aussi de l'univers, de sa création et de sa future destruction. Mes chers frères, n'oubliez jamais, quand vous entendrez vanter le progrès des lumières, que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Je pense que la lumière, quelque part, on oublie son rôle. Et pourquoi je parle de ruse, c'est parce que elle, disons que elle utilise la matière comme les fourmis utilisent les pucerons pour récupérer leur lait, pour se multiplier, pour proliférer. Et la plus belle de toutes les ruses de la lumière pour se multiplier, c'est le vivant. Alors, je ne veux pas dire par là que la lumière c'est le diable ou que la lumière donne un sens métaphysique à l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend en considération cette cause nécessaire dans l'histoire de l'univers, qui donne un sens au même titre qu'il y a un sens de la pente d'une montagne, alors on est tenté de penser qu'on n'est pas tout seul dans cet univers.
Ça veut dire que la vie était obligatoire, la nôtre ou d'autres formes de vie.
Elle n'est pas nécessairement obligatoire, mais elle est dans le sens de la pente. Donc elle est, disons, légitime. Est-ce qu'elle existe ailleurs ? Tant qu'on ne l'aura pas vue, on ne le saura pas. Parce que c'est pas parce que la vie répond le mieux à la propension de l'univers, à cette fameuse ruse de la lumière, qu'elle existe partout ailleurs. Je ne sais pas, mais je suis tenté de penser...
Mais on ne connaît qu'une forme de vie, c'est celle qu'on trouve sur Terre. Est-ce qu'on serait capable de reconnaître ailleurs une autre vie qui serait complètement différente
que la nôtre ? Ah, ça c'est une très bonne question. Nôtre. Ça c'est la question qu'on se pose au quotidien, de la question de l'exobiologie, de recherche de biosignature dans les atmosphères d'exoplanètes. C'est quand même dingue. Il y a pas si longtemps, on ne savait pas s'il y avait d'autres planètes. Maintenant, on a détecté des milliers. On pense qu'il y a des milliards de terres dans notre galaxie. On a vu de l'eau dans l'atmosphère d'exoplanètes, de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. On va demain, avec le satellite James Webb, étudier des molécules relativement complexes dans des atmosphères d'exoplanètes, partir à la recherche de biosignatures. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que le fait qu'on ne voit pas de vie prouve qu'il n'y en a pas, parce qu'il peut y avoir des formes de vie qu'on ne connaît pas, et donc on cherche ce qu'on connaît.
L'absence de preuve n'est pas la preuve
exactement.
De l'absence.
Exactement. Et en plus, on n'a que quelques planètes que l'on connaît. Mais on peut quand même partir en quête de vie ailleurs. Et effectivement, la forme qu'elle aura, elle sera probablement différente de la nôtre. Par contre, et là je ne suis pas un expert, mais je crois savoir que l'idée que l'eau soit fondamentale, et en particulier l'eau liquide, pour l'émergence de la vie, est quand même une idée qui est assez tentante. Parce qu'elle est un solvant, elle permet aux réactions chimiques de se faire, etc. Donc on a tendance à penser qu'avoir une planète avec de l'eau liquide dessus, c'est quand même une condition nécessaire.
Donc on a compris que si votre démonstration est juste, la lumière est bien le facteur, si j'ose dire, qui vient structurer la matière au cours de l'histoire cosmique.
Oui.
Et vous terminez votre livre par une allusion, et vous redescendez sur Terre en parlant du changement
oui.
climatique.
Oui.
Alors comment est-ce que votre interprétation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, peut venir éclairer ce qui se passe avec l'atmosphère terrestre, le fait des émissions de gaz à effet de serre?
Oui, alors déjà d'un point de vue purement mécanique, c'est que le réchauffement climatique, c'est le fait que justement la lumière se multiplie. C'est-à-dire qu'un photon qui vient dans le domaine visible, 0,5 micromètre,
vient du Soleil.
Du Soleil, traverse l'atmosphère parce qu'il a une petite longueur d'onde, il traverse facilement l'atmosphère. Lorsqu'il arrive sur Terre, il est réfléchi, il est multiplié en 20, il est divisé, il est épluché en 20 photons, un peu comme les grains de poussière interstellaires, et donc repartent 20 photons infrarouges de environ 10 micromètres. Et là, comme ils ont une plus grande longueur d'onde, ils se réfléchissent sur l'atmosphère et donc il y a l'effet de serre qui entre en ligne de compte. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une multiplication du nombre de photons, donc de l'entropie, Et donc, effectivement, de ce qui provoque le dérèglement climatique, peut-être encore plus que le réchauffement climatique, une forme de désordre, une augmentation de l'entropie et pas uniquement de la température. Ça, c'est la première chose.
Mais normalement, vous aviez dit que l'émission de lumière, justement, augmentait l'organisation de la matière.
Oui. Alors là, ce qui se passe, c'est que si, imaginons que je sois dans un, que je crée une étoile, par exemple, et qui se structure, qui donne naissance à des noyaux d'atomes de plus en plus riches, mais que je l'empêche de libérer sa lumière, que je bloque la lumière du soleil et qu'elle ne puisse pas partir et qu'elle reste dans le soleil, alors elle va exploser. Et donc, tout ça, c'est à condition qu'on joue. C'est comme une banque, on a de l'argent en banque, mais si vous êtes milliardaire et que vous n'avez pas de carte bleue et vous n'avez aucun moyen de faire sortir l'argent, eh bien, vous avez beau être milliardaire, vous ne pourrez même pas acheter un sandwich.
Vous voulez dire que les photons en question sont emprisonnés dans l'atmosphère ?
Et c'est ça le problème. Exactement. Donc, tant qu'on piège les photons et qu'on a un compte en banque fermé, là, on a un problème de désordre, effectivement, qui va s'appliquer à la matière. Alors, la deuxième raison pour laquelle je cite ça, c'est que à chaque fois qu'il y a eu des grands changements de paradigme en physique, on s'est rendu compte qu'il y avait des signes avant-coureurs. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quand même des signes avant-coureurs qu'on a un besoin fondamental de changement de paradigme à l'échelle de l'humanité, puisque on se rend compte que les problèmes qu'on rencontre sont des problèmes à l'échelle planétaire, pas uniquement à l'échelle d'un pays ou d'un individu. Le réchauffement climatique, la pandémie, la chute de la biodiversité, la pollution, etc. Et ça, Ce qui m'interpelle, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Nations Unies prévoient une stabilisation de la population mondiale dans les prochaines décennies à environ 10 milliards. Et ça, c'est nouveau. La population mondiale n'a cessé de croître, comme l'univers. Et quand un biosystème, un être vivant, atteint une taille stable, c'est qu'il est devenu adulte. Et donc, j'ai une vision assez naïve qui consiste à penser qu'on est peut-être face à un nouveau défi. C'est à partir du moment où l'humanité atteint un stade adulte, il est possible qu'il soit nécessaire qu'elle ait un comportement global. Or, elle est confrontée à des problèmes globaux et elle dispose pour la première fois d'un moyen de communication instantané qui est Internet. Et donc, face à l'éco-anxiété qui guette beaucoup, et on est tous victimes de ça, moi, il n'y a pas un jour où, avec mes collègues, on ne parle pas du problème de ces problèmes planétaires et qu'il faut agir de manière immédiate. En même temps, j'ai quand même un peu d'espoir, de me dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signe avant-coureur d'un système qui doit changer dans notre comportement global à l'échelle humaine. Alors après, comment c'est compliqué.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces photons qui viennent en quelque sorte empoisonner l'atmosphère soient libérés ?
Alors là, effectivement, c'est le problème du CO2 et du méthane qui font cet écran d'effet de serre et qui empêche la libération de ces photons. Donc il faut moins polluer, effectivement. Il faut moins de CO2, moins de méthane. Il faut donc trouver d'autres façons d'utiliser une énergie qui vont pas amplifier l'effet de serre. Ça, c'est assez imparable. Les problèmes, la façon qu'a eu le GIEC de nommer la problématique, je reviens pas là-dessus. Finalement, on les connaît. Et on connaît même presque les solutions, quelque sorte. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une action globale, de la même manière qu'aujourd'hui, en bourse, on ne taxe pas les échanges à l'échelle de la bourse, et parce que chaque pays est incapable d'introduire une taxe qui agirait ailleurs. Mais tout le monde sait que c'est injuste. Et donc, on a un système qui est injuste et qui le restera tant qu'on ne sera pas capable de prendre une décision planétaire. Or, à l'échelle de la bourse, tant qu'il n'y a pas de menace physique sur ceux qui jouent, ils vont continuer de jouer. J'en suis pas arrivé au point de me dire c'est tant mieux si nous sommes menacés, mais disons que si j'étais à la place de la Terre et qu'elle pensait, je dirais que c'est pas bête comme technique.
Retournons dans l'univers, quittons la Terre. David Elbaz, quid de la suite pour l'univers ? On parle de matière noire, d'énergie noire. L'énergie noire est censée accélérer l'expansion de l'univers. Ouais. La matière noire est censée expliquer le mouvement observé des galaxies, si les équations d'Einstein de la gravitation sont justes.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'elle existe ? Est-ce que vous pensez qu'on va la trouver ? Et s'il existe effectivement une énergie noire qui accélère l'expansion, quid de la production de lumière dans le futur et par quel mécanisme se fera-t-elle ?
Alors, j'ai tendance à penser que ces deux problèmes sont liés et sont presque le même. Alors, ça va paraître troublant ce que je vais dire, mais c'est que je pense qu'on est face à un nécessaire changement de conception de l'univers à l'échelle sociétale et physique. et que c'est un bouleversement majeur qui doit se produire. En physique, il est possible qu'on trouve une particule de matière noire, mais même si on la trouve, il faudra expliquer sa nature par de nouvelles lois, de nouvelles physiques. Et donc je pense qu'on est à la veille et qu'on a des signes avant-coureurs, ici aussi, d'un changement de paradigme à venir. Alors, est-ce que la matière noire existe ou pas ? Si la matière noire n'existait pas, en tout cas avec les lois physiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, il n'y aurait pas de galaxie. C'est elle qui a permis aux galaxies de naître. Parce que dans l'univers primordial, l'agitation était telle que la lumière empêchait la matière de se structurer au tout début de l'histoire de l'univers. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se demander quel va être l'avenir d'un univers qui est contrôlé par une matière et une énergie dont on ne connaît pas la nature et on ne sait même pas si elles existent. Donc on peut faire des prédictions en supposant que la matière noire a telle nature et l'énergie a telle nature, mais ces prédictions sont entachées d'incertitudes majeures. Je pense que l'expansion accélérée de l'univers qu'on vit aujourd'hui ressemble tellement à ce qui s'est passé au tout début de l'histoire de l'univers qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un nouveau départ et pas une fin. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une forme de mort froide et que cette énergie noire va...
De réplique du Big Bang ?
Oui. Oui, parce que le Big Bang, c'est quoi ? On pense qu'il y a eu une sorte d'inflation, donc plusieurs dizaines de fois, l'espace a été multiplié par deux, les distances ont été multipliées par deux. Depuis 6,5 milliards d'années que l'expansion de l'univers a commencé à accélérer, il n'y a pas eu encore une fois un facteur 2. Donc on en est au tout début d'une phase d'inflation. Ce n'est pas l'inflation primordiale qui est celle du Big Bang, c'est l'inflation moderne, l'inflation qui...
Plus lente quand même, moins violente.
Oui, mais en fait, en physique, on ne raisonne pas en termes de temps absolu, on raisonne en termes de temps caractéristique. Et donc, ce qui compte, par exemple, à l'échelle d'une galaxie, le temps caractéristique, c'est le temps qu'il faut pour la traverser, en 1 milliard d'années. À l'échelle de l'explosion d'une étoile, ça peut être 1 seconde, etc. Et donc, le temps caractéristique... de l'inflation d'aujourd'hui, bah effectivement, il se mesure en milliards d'années. Et à cette échelle-là, si on veut vraiment savoir quelle est la nature de l'énergie noire, il en faudra un certain paquet, un certain nombre de fois, un facteur 2, pour savoir ce qu'elle va devenir. Est-ce qu'elle va engendrer de nouveau de la matière, comme ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'univers ? On n'en sait rien. Et donc, je sais que beaucoup de mes collègues prédisent la mort catastrophique de l'univers froid dans un bain de photons.
Bon, une sorte de mort thermique.
De mort thermique. Je sais aussi que de la manière qu'on interprète le second principe de la thermodynamique comme étant un chaos et un désordre qui ne cesse d'augmenter. Mais ce que je vois, c'est que le monde n'a cessé de s'organiser. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, je suis réticent à faire des prédictions sur ce qui se passera dans 50 milliards d'années à partir de principes qui m'échappent totalement. J'aime bien plus la question que la réponse, moi. J'aime bien vivre avec une question ouverte.
C'est la journée dernière pour vous. Stephen Hawking a développé un modèle dans lequel il prévoit que les trous noirs émettent de la lumière. Oui. Est-ce que ce serait un mécanisme qui ressemble à l'interprétation que vous donnez ?
Oui, c'est ça, c'est aussi magnifique. Parce que finalement, dans le mécanisme de Hawking, le trou noir est capable de transformer le vide quantique en lumière. C'est extraordinaire. C'est une machine à faire.
L'énergie du vide quantique.
L'énergie du vide quantique.
Pas le vide lui-même.
Non, l'énergie du vide quantique. Alors, oui. Mais non, et ça, c'est le mécanisme à travers lequel il s'évapore. Mais ensuite, à la fin, toute la matière qui est tombée dans le trou noir sera transformée en rayon gamma par une explosion. L'article de Hawking en 1974, c'est « black hole explosions », pas uniquement l'évaporation, l'explosion. Donc c'est une machine qui prend la matière et qui la transforme en lumière. C'est donc l'objet qui pourrait paraître le plus opposé à l'idée d'un principe de prolifération de la lumière. Et pourtant, qui est l'acteur principal.
Si je comprends bien, et je crois que j'ai bien compris, parce que vous avez été très clair, merci David Elbaz, c'est que l'idée que vous développez, c'est que la lumière tracerait tout dans la structuration de la matière.
Oui.
N'est pas marqué que la première moitié de cette phrase, c'est l'anagramme de la deuxième ?
Ah.
La lumière tracerait tout dans, et l'anagramme de la structuration de la matière.
Génial.
Ça m'a été envoyé par notre ami Olivier Garcia, que je remercie.
Moi aussi, je remercie.
Je recommande la lecture de votre livre « La plus belle ruse de la lumière » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. C'était « Science en question » par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Félix Delacour et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.